Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet auditorium splendide de la librairie Mola que je découvre pour ma part pour la première fois. Nous allons avoir le plaisir ce soir d'avoir un entretien qui sera sans doute passionnant avec Michel Lapleny. Michel, dont vous connaissez tous l'activité en Aquitaine. Michel a dirigé de nombreux ensembles et en particulier est chef de l'ensemble Sagittarius depuis maintenant 30 ans. Sagittarius qui est basé à Blaye depuis l'année 2000. Et nous avons donc ce plaisir ce soir pour l'occasion de la sortie du dernier disque de l'ensemble, les Musikalische Exequien de Schütz, dont nous allons parler. Alors, je suis d'autant plus ravi d'être là que j'ai été personnellement témoin de cette aventure Sagittarius depuis pas 30 ans, mais à peu près 24 ans, puisque j'ai rencontré Michel en 1992 à l'abbaye de Sylvanès lors d'un stage de chant amateur que Michel organisait. Et depuis, j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer de manière assez régulière aux productions de Michel. Et de manière ponctuelle de participer à Sagittarius. Alors, on va commencer par parler de ce disque. On parlera également de Sagittarius et de l'activité de Sagittarius, et puis peut-être à la fin des projets de Michel. Alors, ce disque de Schütz, Michel, j'allais dire, est-ce que ça t'a paru évident que ça soit forcément pour ce dernier enregistrement ? Dernier en date, mais aussi dernier enregistrement définitif de Sagittarius, puisque comme tout le monde le sait, Sagittarius termine ses activités à la fin de ce mois. Alors, comme dernier disque, est-ce que c'est un testament musical, cette Musikalische Exequien ?
Alors, un testament, c'est peut-être un bien grand mot, mais disons que c'est un vieux souhait depuis très très longtemps d'enregistrer cette pièce qui je considère comme une des pièces clés de cet auteur. Et j'ai toujours rêvé d'un jour pouvoir l'enregistrer, même s'il existe parallèlement à ce disque, plein d'autres enregistrements de très très bonne qualité et très réussis. Mais pour moi, c'était un hommage direct à rendre à Schütz d'enregistrer ces Musikalische Exequien pour le disque d'adieu, si je puis dire, de l'ensemble. Alors avant de continuer, je voudrais quand même, pour les gens qui ne te connaissent pas, préciser que tu t'appelles Tristan Lesguesec et qu'il est donc, c'est un avocat, mais qui est un grand mélomane et grand chanteur. Il est chanteur, il joue du piano merveilleusement bien. Et j'ai eu l'idée de le solliciter pour cet entretien, car je souhaitais d'avoir à la fois quelqu'un qui est extérieur à Sagittarius, mais qui en même temps assez impliqué dans tout ce que nous avons fait depuis tant d'années et surtout depuis l'an 2000 où Sagittarius est implanté en Aquitaine. Donc je remercie Tristan d'être mon modérateur, comme on dit, et je remercie à l'avance aussi les instrumentistes et les musiciens qui vont bientôt intervenir aussi, car cet entretien sera ponctué de pièces musicales que nous avons choisies avec beaucoup de soin, avec Benoît Babel, claveciniste, avec Cécile Lohmüller, soprano, et Paul Rousseau, qui va jouer de la viole de gambe. Et donc, cet entretien sera ponctué par trois ou quatre interventions musicales avec différents répertoires, musique allemande, musique anglaise, musique italienne, et tout ça pour ponctuer donc cet entretien autour de Heinrich Schütz, mon mentor à moi, depuis que j'ai entendu la première fois un enregistrement de ses œuvres. C'était les psaumes de David en 1972, puisque c'était l'année anniversaire de la mort de Schütz à ce moment-là. Et je découvrais avec étonnement comment un musicien avait réussi à faire ses œuvres à plusieurs chœurs, cette polychoralité, comme on dit si bien, et dont l'écho avait trouvé quelque chose de merveilleux dans mon cœur et dans mon esprit. Et après, donc, j'ai eu d'autres occasions, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais disons que c'est un musicien qui est resté très, très présent dans mon esprit, dans ma tête, dans mon univers musical, et que j'ai donc eu plaisir de magnifier et de faire un témoignage vraiment très vivant avec toutes ces années autour de Sagittarius et ce dernier enregistrement, donc, avec les Musikalische Exequien.
Mais ce n'est pas, et de loin, hein, la première fois que tu interprètes cette œuvre.
Ah non, cette œuvre, je l'ai interprétée depuis que l'ensemble existe. En gros, les premiers souvenirs de ces musicales chez Exequien ont été remontent au début de l'ensemble, enfin dans les années 88-89, dès que j'ai pu avoir la possibilité d'avoir un vrai continuo, d'avoir quelques instruments même se mêlant aux voix. Il nous est arrivé de faire cette œuvre qui, normalement, est purement vocale avec une basse continue, mais selon une tradition de l'époque, on pouvait ajouter ce qu'on appelait des instruments colla parte, hein, qui jouaient la partie des voix chantées. Et donc, c'est un peu une tradition aussi de faire cette œuvre avec des instruments qui doublent les parties. Mais moi, pour l'enregistrement, j'ai opté quand même pour une solution quand même beaucoup plus vocale et j'ai gardé un très très beau continuo, mais je ne me suis pas permis d'avoir des instruments qui viennent doubler les voix car cela nuit un peu à la compréhension du texte et je voulais que ce soient les seules voix qui magnifient ce texte et qui trouvent eux-mêmes les couleurs vocales donc correspondant à tel ou tel état d'âme décrit par la musique.
Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont s'est fait cet enregistrement ? On ne sait pas trop en fait comment ça se passe.
Oui, c'est vrai pour l'auditeur en général qui écoute le disque, le produit fini, il n'a pas idée souvent de tout ce qui précède ce produit fini. Alors bien sûr, il y a toute une phase préparatoire musicale, bien sûr, les chanteurs reçoivent les partitions longtemps à l'avance. Certains l'ont déjà chanté beaucoup de fois avec moi, donc ce qui me facilite le travail de répétition. Mais même si on arrive hyper près à l'enregistrement, il y a toujours, après, il y a quand même cette espèce de nervosité qui intervient quand on sait qu'on est devant des micros et que ça va être enregistré. Même si on sait qu'une prise n'est pas forcément définitive. Nous avons pris l'optique d'un concert live qui servait de fond musical, enfin de fond à l'enregistrement. Mais il est évident que de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des raccords, c'est-à-dire une fin qui n'était pas tout à fait ensemble, un départ avec une consonne un petit peu avant les autres, des choses comme ça. Tout ça, c'est un travail d'orfèvre qui se fait soit pendant les séances d'enregistrement elles-mêmes. Alors, à ce moment-là, le directeur artistique est cette personne très, très importante qui est là pendant les 3 jours d'enregistrement avec un casque sur l'oreille, une partition devant le nez et qui note soigneusement tout ce qu'il entend sur la partition donc, qu'il a devant lui. Et après, quand on a fait une première prise, on nous dit bon, ça démarre bien tout ça. Attention, là, les ténors sont peut-être un peu trop présents, donc on va essayer de reculer un micro ou on va demander aux chanteurs de chanter un petit peu moins fort. Est-ce que les sopranes peuvent s'avancer d'un pas vers le micro ? Enfin, tout ça, ce sont des détails techniques, mais qui sont quand même qui font partie de l'enregistrement. Et je dois dire qu'au bout d'une journée avec 6 heures d'enregistrement, on est quand même dans un état nerveux un peu et de fatigue un peu conséquent. Surtout qu'il a fallu quelquefois recommencer plusieurs fois un passage un peu délicat, que les chanteurs ne sont pas des robots et que de temps en temps la voix se fatigue un petit peu. Donc on sent, et c'est là le rôle vraiment déterminant non seulement du directeur musical mais surtout du directeur artistique de l'enregistrement. Quand il sent qu'il commence à y avoir des faiblesses dans les voix, des choses comme ça, il dit bon ben on arrête pour ce soir. On reprendra demain tel endroit, on continuera l'enregistrement, mais en sachant qu'on est quand même très limité dans le temps, puisque là, on avait eu, par exemple, 2 jours pleins pour enregistrer, avec chaque soir un concert devant le public, puisque mon optique, c'était quand même de présenter un enregistrement un petit peu live, comme on dit si bien. C'est-à-dire, c'est pas seulement live, comme je disais tout à l'heure, mais c'est quand même, pour les musiciens, c'est très, très sollicitant, enfin, le fait de savoir qu'il y a un public qui est là, donc on chante pas seulement pour le micro, mais aussi on chante pour un public qui est là en attente de ce que l'on fait.
Alors, on dit que dans les enregistrements, je ne sais pas si c'est vrai, on est capable d'ajuster les voix, des choses qui seraient fausses et qui deviendraient juste par un ajustement technique. Est-ce que, justement, on n'est pas tenté, du fait de la fatigue des uns et des autres, de dire « Oh, bah, c'est pas très grave, la technique pourvoira à ce petit défaut ?»
Non, ça, c'est vraiment in extremis. Enfin, si vraiment il y a une chose qui a échappé à un moment où on se rend compte qu'il y a, dans un accord, qu'il y a une voix qui est un petit peu basse, un truc comme ça, alors à ce moment-là, On peut peut-être réajuster, mais enfin, c'est, on évite vraiment de le faire, aussi bien Dominique d'Aigremont, puisqu'il s'appelle comme ça, ce directeur artistique, que moi-même, on n'aime pas trop les traficotages techniques de dernière minute et de dire c'est pas grave, quand la technique rétablira tout ça. Non, non, en général, on essaie vraiment de, que c'est le, ce qu'on entend vraiment qui est enregistré et qui apparaîtra dans le disque après.
Alors, c'est un disque dont on vient d'apprendre qui a reçu les 4 F de Télérama, 5 diapasons. J'ai envie de te demander quelle est la distinction qui te fait plaisir.
Bon, bien sûr, les critiques musicaux sont, quand on a une bonne critique dans une revue comme Télérama, ça fait extrêmement plaisir, bien entendu. Mais ce n'est pas la seule chose que j'attends. J'attends que le public me donne son avis aussi. Un auditeur lambda qui vient me voir en me disant « Oh, j'ai écouté votre disque, et vraiment, ça me plaît énormément. » Ça me fait autant plaisir qu'une très, très bonne critique dans Télérama. Et puis, il y a aussi les gens qui ne disent rien. On ne sait pas s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé. Et donc, c'est toujours un peu un mystère de savoir un peu comment est reçu un enregistrement. Car comme écho, il y a ce qui paraît dans la presse officielle, un peu dans Internet, des gens qui viennent vous voir après les concerts, mais ce n'est pas la majorité des gens qui achètent les disques. Et donc, c'est toujours un peu un mystère de savoir comment le disque est perçu, si les gens l'ont écouté une fois, deux fois, trois fois, s'ils l'ont mis dans un placard, et puis après, se disant, ça sera pour plus tard. Enfin, voilà, il y a toujours quelque chose d'un peu inconnu qui accompagne un enregistrement. Mais pour nous, disons que c'est quand même une satisfaction intérieure et musicale de savoir qu'on a fait le maximum pour magnifier une œuvre qu'on porte dans son cœur depuis très très longtemps. Et pour moi, c'est vrai que ce dernier enregistrement, c'est musical et exécution, que j'ai pu faire avec une équipe de rêve au bout de ces 30 ans, c'était vraiment un but auquel j'espère avoir réussi d'arriver.
Alors j'imagine que ton interprétation au fil des années a évolué, peut-être pas d'ailleurs, mais comment, sous quelle forme, qu'est-ce qui a pu t'influencer pour qu'on arrive à ce produit fini?
Ben, oui, c'est vrai qu'il y a un travail inconscient qui se fait au cours des années, ne serait-ce que parce qu'aussi les gens à qui on a affaire ne sont pas les mêmes. Souvent, il y a de nouveaux chanteurs qui interviennent, qui ont une voix ou une façon de dire les textes qui peut influer, ou une façon, ou un tempo qui paraissait évident il y a 30 ans et puis qui maintenant me paraît plus d'actualité, me paraît plus valable. Disons que c'est quand même, c'est jamais figé. Et même, il faut se méfier, car entre deux journées, si un jour on est en pleine forme et le lendemain un peu fatigué, on peut prendre un tempo un peu plus lent le deuxième jour, des choses comme ça. Donc, l'ingénieur du son est là pour vous dire, attention, hier, le même passage était un peu plus rapide. Donc, il faut quand même faire constamment attention à ce genre de choses. Donc, c'est jamais quelque chose de figé, même si après, quand on écoute le disque, le résultat final, on se dit, ah ben finalement, oui, il y a quand même une belle unité dans cet enregistrement, dans ce qui s'est passé. Mais le mérite, bien sûr, on revient au chanteur, on revient peut-être un peu au chef aussi, mais le mérite, on revient beaucoup aussi à la prise de son, aux ingénieurs du son, au directeur artistique qui a mené un peu la barre pendant ces 3 jours. Donc c'est une réussite qui est partagée par beaucoup de personnages et beaucoup de personnes.
Si tu devais enregistrer un nouveau disque, non, c'est le dernier.
Oui, c'est le dernier.
Ça serait quoi?
Il y a quand même une œuvre que je regrette de n'avoir jamais fait en concert, ni d'avoir, et pour cause enregistrée. C'est quand même, c'est pas une œuvre de chute, c'est les Vêpres à la Vierge de Monteverdi, car ça m'a toujours paru être un pendant absolument magnifique au psaume de David, par exemple, de Chute. Et je rêvais d'un jour de faire en concert ces Vêpres à la Vierge. L'occasion ne s'est pas présentée, car il faut quand même un bel effectif instrumental, donc des budgets un peu élevés. On a essayé de faire ça en 2010, parce que c'est l'année anniversaire de la création de ces Vêpres à la Vierge, en 1610. D'autant plus que la chapelle de Blaye, dans laquelle nous avons travaillé pendant des années, au-dessus de la porte d'entrée, il y a un écriteau 1610. Donc, je me disais, il faut absolument faire les Vêpres à la Vierge dans cet endroit. Malheureusement, ça ne s'est jamais produit, ça n'est jamais arrivé. Mais bon, une carrière, c'est aussi il n'y a pas que des satisfactions, il y a quelques regrets aussi, bien sûr.
Parce que Schütz, en fait, était assez, a eu beaucoup d'attention vis-à-vis de la musique italienne, voire a même développé à certains moments un style italien, non ?
Oui, complètement. Il était fasciné par l'Italie. D'ailleurs, il a fait deux séjours lui-même. Le premier, quand il était encore jeune homme, il a eu une superbe bourse du margrave de Hesse qu'il a sponsorisé, comme on dirait maintenant, pour aller passer quelques années auprès de Giovanni Gabrielli, qui était le grand maître vénitien qu'on connaît. Donc, très jeune, Schütz a été confronté à cet univers musical italien, vénitien, et il est retourné une deuxième fois en 1628-1629. Donc, c'est un élément de base pour lui, enfin, cette technique de l'écriture italienne, la monodie italienne, du texte qui passe avant tout et toute chose, et des beaux effets émotionnels aussi que l'on doit transmettre. Donc tout ça, ça fait partie intégrante de la musique de Schütz jusqu'à la fin de sa vie.
Il a eu d'autres influences, la musique anglaise peut-être ?
Alors, musique anglaise, peut-être pas trop, mais par contre, ce qu'on appelle le répertoire franco-flamand, c'est les Roland de la Suze, les Josquin des Prés, enfin tous ces compositeurs du XVIe siècle qui ont écrit ces magnifiques polyphonies, ont été aussi toujours un modèle pour lui, ne serait-ce que par exemple en 1648, quand il publie ce qu'il a appelé « Geistliche Chormusik », la musique sacrée pour chœur. Dans sa préface, il fait référence justement à ce style ancien, de l'ancien temps, et il dit que les jeunes compositeurs feraient bien de ne pas toujours écrire avec de la basse continue, mais aussi de se frotter à la dure noix du contrepoint. Et quand il dit la dure noix du contrepoint, c'est la façon donc d'écrire à la façon des franco-flamands, de Roland de la Suze, dont je parlais tout à l'heure, par exemple, c'est-à-dire de savoir écrire une très belle polyphonie, même si cette polyphonie n'est pas soutenue par une basse continue riche et qui magnifie la musique.
Et ces compositeurs français, ces compositeurs-là que tu chantais dans l'ensemble Clément Jeannequin ?
Oui, alors j'ai beaucoup fréquenté le répertoire polyphonique précédent, donc Heinrich Schütz, du temps où j'étais ténor à l'ensemble Clément Jeannequin. On a fait beaucoup ce répertoire et donc ça a été aussi pour moi une façon d'envisager un peu la polyphonie de Schütz, qui n'en est pas très loin, surtout dans ses premières œuvres. Et donc c'est de savoir entendre toutes les voix, voir comment elles s'enchevêtrent entre elles, comment elles, tout d'un coup, il y a, après un point d'orgue, tout d'un coup, des grandes colonnes homophoniques, comme on dit si bien, qui ponctuent le discours. Tout ça, c'est issu de ce langage franco-flamand.
Je voudrais revenir maintenant un petit peu sur Sagittarius. Sagittarius, donc, que tu as créé en 86, à une époque où tu avais développé une carrière de chanteur à l'ensemble Clément Jeannequin, dont on a parlé tout à l'heure, et aux Arts Florissants, deux grands ensembles quand même de musique baroque. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'un coup de partir seul un petit peu et puis de créer cet ensemble? C'est un risque professionnel.
Oui, en fait, il y a eu plusieurs raisons. Tout d'abord, 1986 correspond à une époque où j'ai eu des petits problèmes vocaux, où je chantais ténor depuis des années, mais je sentais que ce n'était pas ma vraie tessiture. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de revenir à ma vraie voix, qui est la voix de baryton, un peu plus grave. Donc, j'ai mis un petit peu le frein à mon activité de chanteur. J'ai quitté l'ensemble Clément Jeannequin à ce moment-là. Et avec William Christie, j'ai continué à chanter, mais comme j'étais un baryton, il y avait peut-être moins d'emplois que l'époque où j'étais ténor. Et puis, c'est aussi surtout l'époque, en 1986, un an après 1985, qui a été, pour ceux qui ont vécu cette époque-là, au niveau musical, une grande année anniversaire. Il y avait Jean-Sébastien Bach, qui était né en 1685. Handel, né la même année. Il y avait Scarlatti aussi, né en 1685. Et quelqu'un d'avisé, Stéphane Caillat, chef de chœur parisien, qui me connaissait en tant que chanteur, mais aussi en tant que germaniste, m'a dit « Tu sais, on va beaucoup parler de ces grands musiciens, mais il y en a un qui va être sûrement oublié, c'est Heinrich Schütz. » Ah bon ? Oui, il est né en 1585, donc exactement un siècle avant. Et ça serait peut-être le moment de t'occuper un peu, de faire travailler pour le centre d'études polyphoniques. Donc, c'était un centre qui était nouvellement créé, qui avait pour but de promouvoir un peu le milieu amateur en France. Et donc, il m'a confié quelques masterclass autour de ces fameux petits concerts spirituels de Schütz, avec pour mission de le faire travailler à un groupe de chanteurs, donc pendant une année, avec un week-end par mois, avec un concert final. Donc nous avons beaucoup travaillé avec une équipe de chanteurs. Il y avait Pascal Bertin en particulier parmi ces chanteurs, qui est maintenant qui est devenu un grand contre-ténor et qui est directeur de la musique ancienne au CNSM à Paris. Il a fait ses premiers pas dans ce répertoire avec moi. Il avait 19 ans à l'époque et il y avait plein d'autres chanteurs. Et donc nous avons beaucoup travaillé ce répertoire. Moi, je l'ai découvert personnellement aussi, de l'intérieur cette fois-ci. Et au bout de cette fameuse année, juin 86, on a fait concert final, non 85, on a fait un concert final et on s'est dit, mais maintenant c'est fini, c'est un peu dommage. D'où est née cette idée chez moi de réunir, de garder cette équipe que j'avais constituée et d'en faire les noyaux d'un ensemble que j'avais envie de constituer pour chanter, continuer de chanter l'œuvre de Schütz, qui était assez méconnue en France et peu fréquentée. D'autant plus que mon chef adoré, William Christie, s'intéressait beaucoup à la musique française, italienne, anglaise, mais on ne faisait pas de musique allemande avec lui, car modestement, il disait « je ne possède pas bien l'allemand, donc je préfère ne pas aborder ce répertoire ». Et je me suis dit, alors allons-y, puisque lui n'en fait pas. Moi, je vais faire du Schütz. Et donc, ça a été les débuts de l'ensemble Sagittarius.
Oui, parce que tout le monde ne le sait pas, mais tu as une carrière de prof d'allemand avant. Hein.
Oui, c'est ça, exactement. Dans une vie antérieure, j'ai exercé le métier de professeur d'allemand pendant une bonne dizaine d'années. Et donc, j'ai fait des études d'allemand, bien sûr, ici à Bordeaux, pendant quelques années, dans les années 60 jusqu'à 68. Et j'ai donc toujours eu une préférence pour cette langue que je trouve admirable. La littérature allemande, la culture allemande, tout ça m'a assez fasciné. Wagner, on en reparlera peut-être plus tard. Disons que j'ai toujours eu un très, très bon contact avec la langue allemande, et d'où cette envie de la faire partager à des jeunes chanteurs qui n'étaient pas forcément des germanistes de formation.
Alors, il y a eu Schütz au début, mais vous n'avez pas chanté que du Schütz pendant 30 ans à Sagittarius.
Non, non. Schütz, bien sûr, ça a toujours été, comme je dis, la colonne vertébrale de l'ensemble, mais nous avons abordé plein d'autres répertoires. Musique française, tout d'abord, tout un répertoire qui va de la fin de la Renaissance, avec Claude Lejeune, des gens comme ça, jusqu'à l'époque de Louis XIV, hein, en balayant donc les années Louis XIII, la régence d'Anne d'Autriche, le jeune Louis XIV. Voilà. Donc on s'est beaucoup intéressé à ce répertoire, avec des compositeurs un peu méconnus comme Bousignac, Moulinier, Henri Dumont. Voilà. Parallèlement à ça, nous avons aussi abordé la musique italienne, car on ne pouvait pas chanter du Schütz sans se dire, mais il faut entendre et faire un peu l'équivalent italien de cette musique-là. Donc beaucoup de Monteverdi, beaucoup de Gabrielli aussi, des doubles chœurs, qui faisaient souvent écho à des psaumes de David en double chœur aussi de Schütz. Donc répertoire italien assez vaste. Et puis la musique anglaise aussi, par goût personnel, j'aime beaucoup la musique anglaise. Il m'était arrivé avec les arts florissants de chanter pas mal de musique religieuse, musique sacrée de Henry Purcell, de faire son Didon aîné avec mise en scène et tout ça. Donc j'ai toujours eu un très très bon rapport avec la musique anglaise. Et il nous est arrivé, surtout en 1995, année anniversaire de la mort d'Henry Purcell, de faire beaucoup de concerts avec ce répertoire. Et tout à l'heure, nos amis musiciens, nous chanterons un petit peu de Purcell, mais peut-être on peut continuer l'énoncé un peu de tous les répertoires qu'on a pu faire. Alors il y a un domaine qui m'a tenu particulièrement à cœur aussi, qui me tient toujours à cœur, c'est un aspect un peu méconnu de la musique française, donc du début du XVIIe siècle, avec ces Bousignac et Moulinier dont je parlais, mais aussi d'autres compositeurs qui ont été attachés à la musique protestante. Car il y a tout un répertoire de psaumes en français, soit huguenots, soit catholiques de la même époque, qui ont été mis en musique de façon très, très nombreuse par plein de compositeurs. Et c'est un répertoire, un pan de la musique française qu'on connaît en général pas du tout. Et je rends hommage à René Martin qui, en 1998, m'a demandé de faire tout un programme spécifique autour des psaumes de l'époque de la Réforme pour parler donc de la création de l'Édit de Nantes. Et nous avons fait plein de concerts dans la région nantaise à ce moment-là avec ce répertoire de psaumes en français à quatre voix ou à voix seule avec luth, enfin, donc tout un répertoire qui était un peu nouveau. Et j'ai été aidé en cela aussi par une musicologue, Denise Launay, qui s'était beaucoup intéressée à Bousignac et qui avait publié tout un recueil d'une anthologie des psaumes en français, mais de tradition catholique. Car pour faire court, face à cette avalanche de psaumes en français huguenots, les catholiques se sont dit qu'il faut réagir et il faut nous-mêmes que nous ayons nos propres traductions catholiques de ces mêmes psaumes que pourront chanter les catholiques français. Donc il y a toute une double littérature sur les mêmes textes de psaumes, traduits par des gens différents, bien entendu. On sait que c'est Clément Marot et Théodore de Bèze qui ont traduit les 150 psaumes du psautier, qu'on appelle, lors de sa parution en 1562, le psautier de Genève, avec les mélodies qui étaient chantées à l'unisson par les fidèles à ce moment-là. Et parallèlement à ça, donc, toute une série de Claude Lejeune, par exemple, qui a mis en musique des psaumes en français. Il y a d'autres compositeurs dont le nom m'échappe pour le moment, mais tout ça, ça a duré jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes, en fait. Car en 1685, ça a été un peu la fin de ce genre qu'on a appelé le psaume polyphonique français. Donc voilà une tranche de l'histoire de la musique à laquelle je me suis beaucoup intéressé.
Et qu'il y a eu des répercussions, tu me disais, un peu dans toute l'Europe, notamment en Hollande et en Allemagne.
Oui, oui, oui. Alors, bien sûr, c'était né en France, ce mouvement, mais beaucoup de protestants étaient partis se réfugier à Amsterdam. Et un compositeur comme Jan Peterson Zwilling, qui ne connaissait pas bien la langue française, mais a eu quand même à cœur de mettre en musique et en polyphonie les 150 psaumes, en s'inspirant de cette mélodie d'origine qui apparaissait dans le psautier de Genève de 1562. Voilà, par exemple, il nous est arrivé avec Sagittarius, chose un peu curieuse, de faire des tournées en Europe avec ce répertoire des psaumes. Nous avons été en Pologne, en Russie, en Allemagne, pour chanter un peu du Zwilling, ce qui était un peu inhabituel, mais qui a reçu un très, très bel écho de la part des auditoires.
Tu n'as pas parlé de Bach. Vous n'avez pas
de Bach ? Si, si, ben, bien sûr. Alors là, on arrive dans le fin 17e, début 18e. Et bien sûr, Johann Sebastian Bach, c'est un peu une icône sacrée, enfin, auquel on a envie de se frotter, bien sûr, mais avec difficulté, car souvent les cantates de Bach, les oratorios, tout ça sont des œuvres où il faut un gros effectif. Et c'est là que j'ai fait appel, d'ailleurs, pour des diverses sollicitations à l'ensemble Orfeo, aussi au groupe vocal Arpège, donc des Bordelais qui sont venus prêter main forte à Sagittarius. On a même créé pendant quelques années un ensemble qui s'appelait la Capella Sagittariana, qui était destiné à chanter des chorales et des chœurs de tout un cycle de cantates. Ça a eu lieu de 2001 à 2004, si je me rappelle bien. Donc, j'ai quand même beaucoup fréquenté l'œuvre de Bach, bien sûr. Même si je n'ai jamais pu diriger la Saint-Mathieu, ça aussi, c'est un de mes grands regrets. J'ai par contre dirigé plusieurs fois la Saint-Jean, d'ailleurs avec Orfeo et l'ensemble vocal de l'abbaye aux Dames de Saintes. J'ai fait tout un cycle de cantates, comme je disais, dans le cadre de la saison de l'opéra, au début des années 2000. Donc, bien sûr, pour moi, Bach, c'est... Je parle beaucoup de chute, mais Bach, bien sûr, c'est incontournable de toute façon.
Parce qu'on connaît évidemment ton activité de chef de Sagittarius, mais tu as dirigé tout au long de ces 30 dernières années un grand nombre de chœurs amateurs, une grosse activité du côté des amateurs.
Oui, c'est ça. Moi, le monde amateur m'a toujours fasciné et j'adore faire travailler soit un chœur, soit des stagiaires qui viennent pour un été, par exemple, en une semaine, travailler à Blaye ou dans d'autres endroits, tout un répertoire spécifique et qui aboutit souvent sur des concerts qui sont assez réussis. Et j'ai dirigé, par exemple, pendant une vingtaine d'années, l'ensemble vocal de l'abbaye aux Dames de Saintes, donc un ensemble subventionné par la région Poitou-Charentes de l'époque, et avec lequel j'ai monté beaucoup de programmes et en particulier, bien sûr, de la musique française, mais pas que de la musique baroque. J'ai fait du Francis Poulenc, j'ai fait des chœurs à quatre voix avec piano de Schubert, Schumann, Brahms, enfin, tout un répertoire que je ne pouvais pas faire avec Sagittarius, mais que j'ai fait volontiers avec cet ensemble vocal. Et musique anglaise, bien entendu. Et il m'est arrivé de faire Didon aîné, par exemple, en version pseudo-scénique, et puis de chanter beaucoup de ces anthems à plusieurs voix, donc répertoire de musique sacrée, qui donc date de la fin du XVIIe siècle, puisque Purcell, bien que très jeune, est mort en 1695.
Je me souviens, J'avais eu une discussion avec une professeure de chant qui était, que certains connaissent sûrement, qui était à Bordeaux, qui s'appelait Irène Jarski, qui était très versée dans la musique contemporaine et qui me disait, mais tu aimes la musique baroque, c'est bien, mais c'est de la musique qui est dans la naphtaline quand même. On ne peut pas appeler Purcell pour savoir ce qu'on doit faire comme interprétation, ce qu'on doit comprendre à telle mesure, ou s'il n'y a pas une fausse note à telle autre. Et elle, qui avait participé à des créations de Luciano Berio et de compositeurs comme ça dans les années 60, effectivement, ça m'avait un peu interpellé. Et alors, Michel, toi, tu en as fait de la musique contemporaine ?
Alors, assez peu quand même, je dois dire. Ce n'est pas trop ma tasse de thé, comme on dit, vocalement parlant, mais j'adore quand même un certain répertoire. Et je dois dire que j'ai été sollicité, au début d'ailleurs de l'ensemble Sagittarius, par un compositeur qui maintenant est compositeur de grand renom, c'est Philippe Hersan, qui avait assisté à un concert de l'ensemble Sagittarius et qui s'était dit « Oh, mais c'est un merveilleux répertoire, il faut absolument que je trouve un pendant actuel à cette musique baroque, selon mon inspiration. » Et donc, il a eu l'idée d'écrire un psaume à plusieurs voix, enfin, avec une basse continue, un peu dans le style de la musique ancienne, la musique baroque, avec orgue et basse de viol. Et c'est devenu cette pièce, c'est la pièce qui s'appelle « Aus tiefer Not ruf ich Herr zu dir », c'est sur un texte allemand donc de Luther. C'est le psaume 130 donc, que nous avons créé avec l'ensemble Sagittarius. J'étais mort de trouille à ce moment-là, car c'était quand même, j'avais le compositeur à côté de moi pour une fois, et qui écoutait ce qui se passait de façon très, très silencieuse. Et il me faisait quelques remarques, mais après coup, pas pendant le travail. Et nous avons mené à bien cette œuvre, qui est d'ailleurs très, très bien écrite pour les voix. Je dois dire que Philippe Hersan connaît finement la voix humaine. Et il y a bien sûr des dissonants, des effets un peu modernes, comme on dit, entre guillemets, mais rien de très choquant et surtout rien d'impossible à chanter pour les voix. Car souvent, les compositeurs modernes ne se rendent pas compte des difficultés de la voix quand ils ne sont pas eux-mêmes chanteurs. Et donc, ils demandent des acrobaties quelquefois qui sont un peu énervantes. Et donc, par contre, avec Philippe Hersan, ça n'a pas du tout été le cas. Et nous avons fait créer cette œuvre. Et ce que je dois dire, c'est que c'est devenu une œuvre un peu emblématique de beaucoup de chorales qui se la sont appropriées et pour qui c'est devenu une œuvre fréquentable, si je puis dire. Et donc, je trouve que c'est quand même un bon succès pour un compositeur actuel de pouvoir se dire que ses œuvres ne sont pas l'objet juste d'une audition, un jour de première audition et puis après terminée, mais que cette œuvre soit reprise par de nombreux groupes. Et nous avons eu le plaisir ici à Bordeaux de refaire 20 ans après ce même psaume de Philippe Hersan, il y a deux saisons, je crois, à l'auditorium. Et il était même venu pour présenter son œuvre au Goethe-Institut et puis pour assister, bien sûr, à l'œuvre. Et donc, ça a été pour moi une très, très belle expérience, enfin, donc, un peu limitée dans la musique moderne. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de compositeurs actuels qui adorent la musique baroque et qui se sentent prêts à donner un écho un peu à ce répertoire ancien.
Et donc, quand on n'a pas le compositeur sous la main, ce qui est donc ton cas 99% du temps, comment on fait justement pour réussir, ou comment on choisit justement une interprétation, puisqu'on ne sait pas évidemment comment c'était joué, comment l'a voulu le compositeur ?
Alors, c'est un peu tout l'objet de la démarche baroque depuis une trentaine, quarantaine d'années maintenant, qui est d'essayer de retrouver un peu l'esprit de la création de ses œuvres. Beaucoup des gens comme Gustave Léonard, Nicolas Hornancourt, William Christie, Philippe Hervec, tout ça, se sont beaucoup penchés sur ces répertoires, mais en revenant un peu aux sources, aux manuscrits d'origine, aux éditions originales, et surtout à se référant à beaucoup de traités d'interprétation d'époque, car on a quand même beaucoup de choses écrites sur ces répertoires, même si souvent c'est écrit dans un style un peu sombre ou un peu incompréhensible pour nous, mais on arrive quand même à déceler un peu les intentions des compositeurs et ce qu'il faut faire. Par exemple, on sait que la musique française sans ornementation sur certains mots, sur certaines cadences, n'est pas possible. Il y a des traités avec des formules ornementales que l'on peut utiliser sur telle ou telle cadence, entre une seconde, une tierce, une quarte, tout ça. Donc des choses très codifiées et qu'il suffit de mettre un peu en application. D'ailleurs, je pense que c'était ce que faisaient tous les matins les jeunes choristes des maîtrises dans les cathédrales du royaume, ou en France ou dans d'autres pays. Donc ils étaient familiarisés avec cette façon d'orner la musique en se référant à des choses concrètes. Il y a aussi le retour aux instruments anciens, car souvent, on sait que les clavecins, par exemple, les reconstitutions de clavecins dans les années 30 avec Wanda Landowska, étaient un peu des recréations modernes de l'esprit du clavecin, avec des pédales, tout ça, des choses qui n'existaient surtout pas à l'époque. Donc, on revient à des instruments anciens où on fait des copies d'instruments anciens, de même pour les violons, pour tous ces cornets, enfin tous ces instruments avant un peu mystérieux comme le cornet à bouquin, tout ça. Il y a toute une profession de luthiers qui donc font des instruments en se référant aux mesures d'époque, au bois d'époque, enfin à toutes les indications qu'on peut avoir. Donc on n'est quand même pas complètement dans le désert. Et puis il y a eu quelques esprits novateurs comme Gustave Leonhardt, comme William Christie pour la musique française, qui ont tellement fait de recherches et qui l'ont transmis après en tant qu'interprète, que finalement, on a quand même des références et ce n'est pas toujours aussi impossible que ça. Et puis, il y a certaines conventions, par exemple, pour les tempi. Quand il n'y a pas d'indication métronomique, mais on a quelquefois un sé barré, on a un 2-2, on a un c'est barré avec à côté un 3-4 ou des choses comme ça. Il y a quelques références que donnent les compositeurs et qui sont des références pour nous sur le tempo qu'on doit utiliser. Il y a aussi tout ce répertoire qui était lié à la danse. Et on sait qu'un menuet, par exemple, était dansé à une certaine cadence. Sinon, il n'était pas dansable. Donc là aussi, il y a eu des échanges constants entre les chorégraphes qui se sont intéressés à l'esprit baroque et les compositeurs et les interprètes, les clavecinistes en particulier, tout ce répertoire qui se réfère à la danse. Voilà, donc on n'est pas complètement dans le désert. Et alors il y a aussi le problème des diapasons. Quel diapason utilisait-on ? On dit le diapason baroque, c'est 415. Bon, ça c'est une façon de généraliser un peu courte, qui a été d'ailleurs bien remise en question. Et on sait par exemple qu'en France, à l'époque de Louis XIV, on chantait avec un diapason un ton plus bas que le diapason 440 actuel. Donc c'était le diapason 392, ce qui rend ces œuvres chantables de nos jours. Car dans les années 50, on s'est remis à mettre sur le tapis des opéras de Rameau, par exemple, mais avec le diapason à 440, même peut-être 445, ce qui pour les voix aiguës était absolument impossible à chanter ou à tenir des tessitures très très élevées et qui donnait une fausse idée un peu de ces compositeurs. En Allemagne, on avait, selon les paroisses où on était en 415, il y avait ce qu'on appelait le diapason d'église et le diapason de chambre, qui n'étaient pas les mêmes. Les compositeurs avaient un souci permanent de savoir dans quelle ville jouer leur œuvre, s'ils avaient à la transposer ou pas. Par exemple, on sait que Bach a fait son magnificat en ré majeur, que l'on connaît bien. Il a été obligé de le transposer en mi bémol majeur pour le jouer dans une église en dehors de Leipzig. Voilà, donc un tempérament, un diapason un peu fluctuant. Et en Italie, par exemple, on sait que le diapason de Venise était très, très haut. Enfin, on se réfère aux instruments, aux orgues d'époque. Et on était à un diapason souvent à 460, c'est-à-dire un demi-ton plus haut que 440. Voilà, donc quand on aborde une œuvre, il faut se demander tout de suite quel diapason va-t-on utiliser ? Alors, quelquefois, on fait des mélanges dans le programme, donc c'est toujours, on est obligé de faire des compromis. Si on met de la musique française en première partie, de la musique italienne en deuxième partie, il faut trancher. Alors, soit on a deux clavecins, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir deux viols, par exemple. Ça m'est arrivé de faire des programmes avec des gambistes qui amenaient deux instruments, pour la première partie basse en musique française et deuxième partie haute pour la musique italienne. Enfin, voilà des problèmes auxquels nous sommes constamment confrontés. Il y a aussi le problème des éditions, parce que beaucoup d'œuvres de l'époque ont été éditées au 19e siècle, au début du 20e siècle, soit en les transposant parce que ça paraissait trop grave, soit en changeant complètement les armatures au début, enfin, les indications de mouvement, des 3-4, des choses comme ça. Ce qui fait qu'on est toujours obligé de revenir quand même aux manuscrits anciens et aux éditions d'époque pour retrouver un peu le véritable esprit de ces musiques-là. Mais je dois dire aussi qu'il y a eu quand même au 19e siècle, curieusement, de très très bons travaux faits par les musicologues allemands qui ont remis à l'honneur l'œuvre de Bach en la rééditant intégralement. Et parmi les cofondateurs de cette société Bach de l'époque, on trouvait des noms comme Franz Liszt, comme Johannes Brahms. Donc des gens qui se sont intéressés très tôt quand même à ce répertoire, même si on ne le pratiquait pas de façon actuelle, enfin en essayant de revenir aux effectifs d'époque. Voilà, donc on n'est pas complètement démunis quand même pour... Et puis, je dois dire qu'on vit en 2016 maintenant. Notre sensibilité n'est plus la même qu'en 1665, par exemple. Et donc, on a évolué, je veux dire, l'esprit, notre sensibilité a évolué. On a une sensation des tempi qui n'est peut-être pas celle des gens de l'époque aussi. Mais donc, il y a toujours la touche personnelle de l'interprète qui intervient malgré tous les travaux qu'on a pu faire sur les traités anciens et tout ça. Et ne serait-ce que, voyons l'évolution, par exemple, entre les premiers enregistrements de Nicolas Harnoncourt dans les années 68-70 et ce que fait un Raphaël Pichon maintenant avec les mêmes œuvres. On est toujours dans l'esprit de la musique baroque, mais on n'a plus les mêmes critères. Par exemple, on était un peu obsédé au début par la voix non vibrée. On disait que pour la musique, il fallait chanter la musique baroque sans vibrer du tout. C'est vrai pour certaines œuvres et pour certains effets. Quand on évoque le sommeil éternel, la mort, à ce moment-là, ne pas vibrer. Ou amorcer un son qui va s'ouvrir après, ce qu'on appelle un messa di voce. On commence sans vibrer, mais ça ne veut pas dire qu'on va rester tout le temps sans vibrer. Ce qui est absolument impensable pour un chanteur, le fait de maîtriser son vibrato tout le temps fait qu'au bout d'une heure, on ne peut plus chanter. On est complètement à faune. Voilà. Donc, des critères auxquels on doit se faire toujours attention et qu'il faut tenir, auxquels il faut tenir compte.
Adieu la naphtaline, donc. mais la musique baroque, on comprend que c'est d'être un peu historien, d'être un peu découvreur. Et tu as parlé tout à l'heure de ton travail sur les psaumes. Tu as aussi découvert des partitions, redécouvert des partitions, notamment ici à Bordeaux.
Alors, malheureusement, à Bordeaux même... j'ai pas fait la découverte que j'attendais, en particulier autour d'un compositeur comme Charles Levens, qui est un grand compositeur qui a vécu à Bordeaux dans la première moitié du XVIIIe siècle et qui a été maître de chapelle à la cathédrale de Bordeaux. Et quand je suis arrivé en Aquitaine, Jean Duron, un musicologue du Centre baroque de Versailles, m'a dit « Tu vas à Bordeaux, il faut absolument t'intéresser à donc Charles Levens ». J'ai dit « Oui, d'accord, mais où est-ce qu'on trouve le matériel ?» Alors il m'a dit « Tu ne trouveras rien à Bordeaux parce que toute sa musique a été dispersée à sa mort. Elle est un peu partout dans les bibliothèques en France, mais à Bordeaux, il n'y a aucune trace de la musique de Charles Levens. Donc, voilà, une des déconvenues que j'ai eues en arrivant ici, c'est de... J'ai fait des recherches un peu partout, mais aucune trace de musique de Levens. Alors, on en trouve à la Bibliothèque nationale, on en trouve à Lille, à Carpentras, à Aix-en-Provence, dans des bibliothèques de province. Car la veuve de Charles Levens, contrairement à l'usage de l'époque, a dispersé ses partitions à sa mort, alors que normalement, elles auraient dû rester propriété de l'évêché, de l'archevêché de Bordeaux. Bon, d'autres partitions existent aussi, mais peut-être des compositeurs un petit peu moins intéressants. Et donc, je me suis quand même un peu limité à Charles Levens au cours de ses 16 années en Aquitaine. Nous avons eu l'occasion de recréer ces deux requiems, qui sont très, très beaux, qui ont une écriture instrumentale un peu particulière, qui a une partie de basse continue normale, ça c'est pas surprenant, mais il y a deux voix de basson, deux parties de basson concertantes, ce qui est assez inhabituel dans un requiem. Par contre, on s'est beaucoup intéressé à son Te Deum, qui a été joué à Bordeaux plusieurs fois au cours de la vie de Levens, et même après sa mort, et nous l'avons enregistré il y a quelques années. Tu as fait partie d'ailleurs de cet enregistrement, et ça a été une belle découverte ou retrouvaille, car ce Te Deum avait déjà été fait à l'époque où Edith Deris, musicologue bordelaise, avait remis sur le tapis Charles Levens, avait fait une énorme thèse de troisième cycle sur ce compositeur. Et je dois dire que la thèse sur Charles Levens, faite par Edith Deris à l'époque, et donc que j'ai eu entre les mains, m'a énormément servi pour l'interprétation de cette musique et aussi pour avoir quelques lumières sur la vie musicale bordelaise au XVIIIe siècle.
Alors, 30 ans de Sagittarius vont s'achever. Qu'est-ce que tu retiens comme grand moment ? Bien sûr, il y en a eu beaucoup, j'imagine, mais comme grand moment au long de ces 30 ans ?
Bon, c'est toujours un peu difficile parce qu'on a toujours l'impression, après un concert réussi, que c'est le plus beau concert qu'on ait jamais fait. Le tri se fait un petit peu après. Alors, il y a quelques moments marquants quand même, je dois dire. Des concerts particulièrement réussis où tout d'un coup on a trouvé une espèce d'état de grâce entre les chanteurs, la direction, l'acoustique du lieu, tout ça. J'ai eu une très très belle émotion par exemple à l'abbaye de Sylvanès en 1990 après avoir fait la Saint-Mathieu de Schütz. Le chœur final tout d'un coup, que tu connais bien, a pris une dimension dans cette abbaye de Sylvanès que je n'avais jamais connue, et je dois dire que c'est resté, j'en avais la chair de poule, et c'était resté pour moi un des plus beaux événements musicaux de ma carrière avec Sagittarius. Il y a eu aussi la possibilité de faire à l'abbaye de Fontevraud l'intégrale des psaumes de David, de Schütz, ce dont je rêvais depuis ma jeunesse, enfin depuis le moment où j'ai connu Schütz. Je me disais, si un jour je pouvais enregistrer les psaumes de David. Ça a pu se faire donc à l'abbaye de Fontevraud, dans un contexte un peu particulier. C'était dans le grand réfectoire. Il a fallu faire plusieurs podiums, puisque c'est une musique polychorale, comme on dit, soit à deux chœurs, soit à trois chœurs, quatre chœurs. Et donc, c'était un peu difficile de placer le public, parce qu'on a fait des concerts publics autour de ces psaumes. Et ensuite, on les a enregistrés dans une optique un petit peu pseudo-live, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a fait les pièces intégralement, sans s'arrêter, deux, trois fois de suite. Et ensuite, il y avait un début qui marchait mal ou une fin pas très juste, on faisait des raccords, comme on dit, mais enfin, l'ensemble a été quand même fait dans une perspective live. Donc pour moi, ces psaumes de David de Schütz enregistrés à l'abbaye de Fontevraud restent un très, très, très beau souvenir. Et puis, il y a eu quelques tournées à l'étranger, en particulier une tournée en Chine en 2009, qu'on n'oubliera pas non plus, car j'avais une bonne équipe de chanteurs et on a chanté dans des salles absolument impensables en Occident. Des auditoriums de 1500 places, tout en bois, avec des conditions acoustiques absolument de rêve. Et même, on était 6 chanteurs, je crois, et un continu. Même dans des grandes salles comme ça, tout passait admirablement bien. Donc, ça a été aussi de très, très beaux souvenirs musicaux, liés, bien sûr, à l'espace, à l'endroit où nous étions, mais aussi au public, parce que c'était un public chinois qui n'était pas du tout habitué à cette musique, avec des enfants qui allaient et venaient dans les rangées, des téléphones portables qui sonnaient, des choses comme ça. Bon, mais il faut bien se dire qu'au XVIIIe siècle, si on écoute les concerts à Paris ou à Versailles, étaient pleins de bruits parasites aussi. Les gens se levaient, il y avait des tasses de café ou de thé qu'on apportait, tout ça, des petits chiens qui évoluaient entre les chaises, tout ça. Donc, le respect absolu du silence dans une salle de concert, c'est quand même une chose assez récente. Voilà. Bon, alors voilà quelques souvenirs égrenés un petit peu en vrac comme ça. Mais et puis alors, je dois dire aussi que dans les concerts récents, j'ai ces concerts autour des musicales et chez Exequien que l'on a fait en particulier à Bordeaux, là, à l'église Saint-Paul, chez les Dominicains, et qui a été particulièrement réussi, et qui, pour moi, restera sûrement un des très, très beaux souvenirs de concerts live.
Et il y a eu aussi quelques... On se souvient à Bordeaux des quelques super productions, si j'ose dire, notamment la fameuse Grande Messe à quatre chœurs. Puis plus récemment, quelque chose qui te tenait à cœur, qui était la recréation, je ne sais pas comment il faut dire, la recréation du mariage de Louis XIII.
Oui, c'est ça. Deux projets absolument incroyables. Depuis que je suis à Bordeaux, je rêvais de cette année 1615, qui était l'année où Louis XIII s'était marié à Bordeaux. Et je me suis dit, en 2015, il faut absolument faire quelque chose. Et je n'ai eu de cesse qu'on mette sur pied cette évocation. Enfin, ce n'était pas vraiment un concert, ni... C'était une reconstitution, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui avait été joué musicalement lors de ce mariage. Mais je n'ai eu de cesse qu'on puisse mener à bien ce projet, donc qui a eu lieu en novembre l'année dernière et auquel l'ensemble Orfeo a participé. Et je dois dire que ça a été aussi, pour moi, une très, très grande satisfaction à la fois intellectuelle, de ma sensibilité aussi, et puis du fait que Louis XIII, c'est un roi un peu méconnu, et puis son mariage à Bordeaux était ignoré de la plupart des Bordelais. Donc ça a remis un peu les pendules à l'heure, et je dois dire que ça a été un très beau concert. Quant à cette messe à quatre chœurs de Charpentier dont tu parles, c'est vrai que là aussi, ça a été un souvenir incroyable, car dans l'église Sainte-Croix, qui était archi-pleine, je me trouvais au milieu de la nef, sur un podium, comme une espèce de ring de boxe, et je dirigeais les quatre chœurs qui étaient en croix dans l'église, et je dois dire que c'est un très 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 beau souvenir aussi, et dans un silence absolu. Et je n'avais jamais tant vu de monde à Sainte-Croix, il y avait 800 personnes, je crois.
30 ans de Sagittarius vont s'achever donc. Tu prends ta retraite ?
Oui, officiellement.
Pas de retraite pour la plénie, comme avait dit un confrère il n'y a pas très longtemps.
Oui, c'est Daniel Picotin qui avait crier ça du haut de l'auditorium, je me rappelle, à la fin des même Raise Nostri, ce concert autour de Buxtehude qu'on avait fait en février dernier. Non, une retraite, bon, c'est un peu, c'est des bulletins de salaire qui changent, mais en fait, mentalement, on est toujours en activité. Donc, je vais arrêter la structure, si vous voulez, administrative de Sagittarius, mais mes activités comme musicien, surtout comme formateur, vont se poursuivre, en particulier avec cette structure que nous avons formé au sein de Sagittarius, qui s'appelle la Schola Sagittariana, qui est donc une structure de formation pour jeunes chanteurs et jeunes interprètes, continuistes éventuellement, autour du répertoire allemand. Ça, c'était un peu ma priorité, même si, une évolution naturelle des choses, on va se tourner un peu vers la musique italienne de la même époque ou la musique anglaise, pourquoi pas. Mais enfin, c'est une académie pour jeunes solistes, mais dont la vocation aussi, c'est de faire de la musique ensemble. C'est un peu une particularité de Sagittarius, c'est d'être un ensemble de solistes qui chantent en polyphonie. Donc, ça sera un peu l'esprit de cette Schola Sagittariana qui continuera de vivre et d'exister au château d'Abzac, près de Libourne et Coutra, avec M. Danglade qui nous accueillera donc au cours des prochaines sessions. Et puis, j'ai quelques occasions de faire des concerts aussi comme chef invité pour différentes structures, de reprendre des programmes anciens, mais ça ne sera plus Sagittarius, mais ça sera un autre vocable. On trouvera quelque chose. Voilà, donc ça ne sera jamais fini.
Je me suis laissé dire que tu avais déjà un concert de prévu l'année prochaine.
Oui, ben, il y a plusieurs concerts. Enfin, tout ça, ça prendra du temps pour les mettre en place parce que j'aurai plus mes administrateurs pour m'aider. Mais disons qu'il y a un concert prévu à La Rochelle à l'automne prochain, sans doute à Pau aussi en juillet prochain. Enfin, voilà, donc quelques événements qui se profilent à l'horizon.
Et à Bordeaux ?
À Bordeaux, ben ça, pour le moment, je n'ai pas de projet particulier sur Bordeaux, mais ça viendra peut-être.
Donc, on peut dire que déjà, le dernier concert de Sagittarius aura lieu le 22 décembre, si je ne me trompe, à l'auditorium, avec un programme qui ne sera pas les Musicalische Exequien.
Non, puisque d'une part, il a été déjà fait à Bordeaux fin septembre et qu'on va se trouver à la fin de l'année 2016. Et mais l'année liturgique aussi débute à ce moment-là. Et on va terminer notre action, si je puis dire, par une nativité, en faisant l'histoire de la nativité de Schütz. Donc, ça sera complètement dans l'esprit de Noël. Et je trouve que c'était symboliquement, c'est bien de terminer 30 ans d'existence par une nativité. Voilà.
Ça sera enregistré ?
Oui, ça va être enregistré par Radio France. France Musique va se déplacer à Bordeaux avec Benjamin François, qui est bordelais d'origine d'ailleurs, et qui va présenter le concert, qui va être enregistré donc le 22 décembre et qui sera diffusé sur les ondes le 25 au matin, le jour de Noël, au moins une grande partie du concert, et puis une deuxième partie, je pense, courant janvier, lors d'une émission spéciale consacrée à Sagittarius, le 21 janvier, je pense, quelque chose comme ça.
Merci à tous d'être venus. Merci à Michel pour ce moment d'entretien.
Merci à tous.